Bonjour Manon. Bonjour au pasteur André. Bonjour la belle-mère. Bonjour Immacula. Bonjour la sœur Rosanie. Frère Jean-Gilbert, s'il est avec toi. Bonjour Marie-André. Bonjour à notre ami Farley. Bonjour Tati. Gentil Manon. Jimmy, content de te voir, sois béni, bienvenue parmi nous ce matin. Merci Marie-André. Bonjour à mon père, à ma mère. Si Marlène et Leandro sont là, on les salue aussi. Merci la belle-mère. Bonjour Marie-Marthe. Alors, on est aujourd'hui le jeudi 4 août, journée pluvieuse aujourd'hui. Bonjour Pascal, que Dieu vous bénisse. Bonjour Rachel, nous ne t'avons pas vu hier, donc je n'ai pas pu saluer les sœurs qui étaient connectées avec toi. Mais on les salue ce matin, donc... Auxilia, Chantal, Mona, bien le bonjour à vous trois. Merci Jimmy, sois béni toi aussi. Alors vous avez un petit 6 minutes pour aller vous faire couler un café. Ou vous faire chauffer de l'eau pour un thé. Bonjour Louise, bonjour Michel. Bonjour aussi. Bien content de vous avoir avec nous ce matin. Merci Louise. Alors pour ceux qui ont leur Bible, on ouvre déjà dans 2 Timothée au chapitre 4. Mais ça vous le savez puisque on est déjà une cinquième semaine d'étude de ce passage. Alors, une journée où le facteur humidex va être élevé. Le thermomètre ne va monter que vers autour de 28, mais avec l'humidité, on va ressentir 37-38. Donc, ça va être assez pénible. Déjà ce matin en sortant, c'était lourd et ça va rester comme ça pour quelques jours. Ah, je suis content de te voir, France. Alors, joyeux anniversaire à France. Que Dieu te bénisse, toi et Patrick, mais particulièrement aujourd'hui puisque c'est ton anniversaire. Donc, que le Seigneur te bénisse, te fortifie en toutes choses. France qui nous regarde depuis la belle région de Gatineau. Donc, si vous voulez la saluer et lui souhaiter un joyeux anniversaire, ça sera très apprécié. Donc, joyeux anniversaire, France. Non, Rosie Daphné ne va avoir ses vacances que dans une dizaine de jours. C'est pour ça que la semaine prochaine, ça va être notre dernière semaine de bénédiction matinale avant le mois de septembre. Je vais prendre une petite pause pendant les vacances de Daphné. On l'a annoncé hier, mais je vais le répéter de toute manière la semaine prochaine aussi, comme quoi ce sera la dernière semaine de bénédiction matinale avant la rentrée. Alors, ceux qui se demandent qui est France, France a marié Patrick il y a déjà quelques années. Et Patrick était membre pendant plusieurs années de notre congrégation ici à Montréal. Et ils habitent dans la région de Gatineau. Bernadette, bonjour. Denise Gérard, bonjour. Ah, la deuxième Denise aussi, Denise de Laval, bonjour. Nathalie, bonjour. Je t'ai aperçue dimanche, j'étais content de te voir. Sois bénie, Nathalie. Hermana Argelia. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Wenaning Barka, Sampa Wende, bon retour parmi nous. Sois béni. Alors, je vous invite aujourd'hui à avoir deux pensées dans vos prières. Vous savez qu'à travers les derniers jours, il y a des gens qui ont été assassinés gratuitement dans la ville. Trois personnes, trois hommes qui ont perdu la vie en 24 heures. Dans les dernières nouvelles, il semble que le suspect ait été abattu par la police ce matin dans le même secteur où les choses se sont... sont produites donc à Ville-Saint-Laurent, un quartier de Montréal. Mais c'est trois familles, quatre avec celle de l'assassin, quatre familles qui sont aujourd'hui assurément dans un désespoir profond. Donc on vous demande de prier pour ces gens. On rend grâce au Seigneur que la chose s'arrête maintenant. Puisque le suspect a été abattu ce matin, donc ça devrait rentrer dans le calme. C'est pas l'image qu'on veut lancer sur concernant Montréal sur les médias. Donc on prie pour ces familles qui sont donc dans le deuil aujourd'hui. Une d'entre elles est assez célèbre puisque c'est le papa d'un boxeur assez connu ici au Canada, David Lemieux, son papa qui s'est fait abattre là encore une fois gratuitement dans la rue. On vous demande aussi de prier aujourd'hui, c'est le deuxième anniversaire, si on peut calculer ça comme anniversaire, mais ça fait 2 ans aujourd'hui qu'il y a eu cette terrible explosion dans le port de Beyrouth. Et on sait qu'une bonne partie de la population à Beyrouth est aussi de confession chrétienne. Et on a des frères et des sœurs dans cette région. Et étant donné la minorité qu'ils représentent, c'est les quartiers donc chrétiens qui sont le plus affectés depuis déjà ces 2 années et même avant. Et parmi tous les gens qui sont affectés, on a la maman de notre sœur Pascale qui se trouve encore à Beyrouth. Elle devrait venir, on l'espère, rapidement pour passer du temps avec notre sœur Pascale. Donc les papiers sont en cours. On attend tout simplement que les choses se terminent au niveau administratif. Mais on va prier donc que le Seigneur amène sa grâce sur la ville et puis sur nos frères et sœurs qui sont là-bas. Et prier aussi aujourd'hui que le Seigneur débloque cette situation pour la maman de notre sœur Pascale qui s'appelle Angela. Voilà, alors ces deux requêtes que je laisse avec vous pour cette journée. Donc les familles qui sont touchées par cette vague qui, on l'espère, c'est effectivement terminé ce matin, cette vague d'assassinats qui s'est terminée aujourd'hui, ce matin, il y a quelques minutes en fait. Et prier aussi pour la situation au Liban qui était déjà précaire et qui n'a pas été fortifiée ou n'a pas été améliorée par tout ce qui s'est passé depuis 2 ans. Alors, je vous laisse entre les mains pour que vous priez là-dessus. Et bien sûr, quand vous parlez du Liban, vous parlez aussi de la maman de notre sœur Pascale, Angela. Alors, on va prier tout simplement pour débuter, remettre ce moment entre les mains du Seigneur et lui demander qu'il nous aide dans notre partage de ce matin. Et bien entendu, comme plusieurs le font déjà, vous pouvez aussi souhaiter un joyeux anniversaire à France Lefebvre, pour qui c'est l'anniversaire aujourd'hui. Alors Seigneur, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir pour ce moment que tu nous donnes, afin que nous puissions prendre une pause dans nos activités de la journée et étudier ta parole, partager ce quelques moments de prière, ces quelques moments d'études tous ensemble. Nous savons, Seigneur, que les distances ne comptent pas devant toi, que tu nous unis d'une même pensée, d'un même cœur, et que tu déverses sur chacun d'entre nous, aujourd'hui même, alors que nous nous apprêtons à étudier ta parole, mais aussi pour tous ceux qui écouteront cet enseignement en différé. Tu nous donnes l'occasion, Seigneur, d'être oints d'une même grâce, d'une même onction, d'une même bénédiction. Ce matin, alors que tu sois présent, que tu sois au-devant de nous, que tu nous diriges et que tu nous conduises dans ce moment de réflexion, dans ce moment d'étude, nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors je lis pour vous 2 Timothée au chapitre 4, des versets 6 à 22, et aujourd'hui on étudie principalement le verset 18, en fait toute cette semaine. On étudie principalement le verset 18, que je répéterai en fin de lecture. Alors le verset 6 nous dit « Car pour moi je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens plutôt vers moi. » car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc, amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, les livres et surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos pensées. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquilas, et la famille d'Onésiphore. Eraste est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Alors on répète le verset 18 une ou deux fois. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je répète, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alors que Dieu bénisse sa parole. Je spécifie, France nous demande aussi de prier pour sa sœur jumelle. Évidemment, c'est son anniversaire aussi. Donc sa sœur jumelle Francine, qui n'est pas bien actuellement. Alors que le Seigneur puisse bénir France, dont c'est l'anniversaire, et bien entendu sa sœur jumelle, dont c'est aussi effectivement par conséquent l'anniversaire, mais qui n'est pas bien actuellement. Voilà. Alors, cette semaine, la thématique qu'on aborde, c'est veiller à la seigneurie de Christ dans ma vie. Veiller à l'importance que Christ soit seigneur dans ma vie. Hier, on a expliqué que la seigneurie de Christ n'était pas une option. Pour un enfant de Dieu, la seigneurie de Christ est à la base de sa vie. On a rappelé que Jésus ne peut pas être strictement notre sauveur, mais qu'il se doit d'être notre Seigneur. Et que ce Seigneur n'est pas comparable au Seigneur de cette terre. Si même on trouvait un bon Seigneur humain, il n'en est aucun qui soit comme Jésus. Il n'en est aucun qui soit comme Dieu. Et on a parlé de ce rachat qui s'est opéré au calvaire pour le pécheur repentant. Alors le pécheur repentant est à la base un pécheur comme tous les autres, qui a été exclu de la présence de Dieu, qui a été exclu de la propriété de Dieu. Et Christ étant mort et ressuscité à la croix, ce qu'il a fait, c'est qu'il a racheté le pécheur repentant. Ça veut dire que le droit de propriété sur la vie de cet individu qui confesse Jésus comme son Seigneur et qui se repent de ses fautes, la vie était soustraite des mains de Dieu est rapatriée dans les mains du Seigneur. Puisque le rachat ne veut pas dire, et on l'a bien spécifié hier, que Jésus vienne nous libérer du péché pour que nous soyons libres de faire ce qu'on a envie de faire, comme on a envie de faire, et que nous soyons maîtres de notre existence. Non, lorsqu'on parle de rachat, ça veut dire que je paye pour réavoir ou ravoir, je ne sais pas la formule qui est la meilleure, mais pour avoir de nouveau entre mes mains les droits de propriété sur une chose, sur une personne, sur une propriété, sur un terrain ou autre. Alors lorsqu'on parle que Jésus nous a rachetés, c'est donc qu'il a payé le prix pour avoir de nouveau les droits sur notre existence. Et on disait qu'effectivement, pour nous qui sommes des citoyens occidentaux, très habitués à une certaine liberté qu'a amené notamment la démocratie, Cette idée d'être assujetti à un monarque, assujetti à un roi, très souvent, on est réfractaire à cette idée. Pourquoi? Parce que notre cœur, notre pensée, notre façon de voir les choses a été biaisée par deux facteurs essentiels. Un, par les mauvais exemples de seigneurs qu'il y a eu tout au long de l'histoire de l'humanité, les mauvais exemples de monarques, de rois qu'il y a eu tout au long de l'histoire de l'humanité, puisque la plupart des maîtres qu'il y a eu ont quand même abusé de leur droit ou de leur autorité, même s'ils étaient moins pires certains que d'autres. Et parce que lorsqu'on se rappelle ce qu'était le droit féodal, le droit monarchique sur une population, on se rappelle que le roi avait droit de vie et de mort sur chacun de ses sujets. Alors on a très peu envie, de façon humaine, de remettre ce droit d'existence, ce droit de veto, ce droit de regard, ce droit d'intervention entre les mains de quelqu'un d'autre ayant été habitué depuis quelques siècles à cette liberté qui a été propagée, particulièrement en Occident ou dans la pensée occidentale. Donc il y a cette première chose qui fait qu'on est réfractaire à avoir Jésus comme Seigneur. La deuxième raison, c'est parce que de toute manière, notre nature humaine, elle est pécheresse. Donc cette nature nous pousse à aller loin ou à nous éloigner de Christ. Et par conséquent, cette nature pécheresse nous pousse à ne pas avoir Jésus comme maître. La première faute d'Adam et Ève, ça a été de remettre en question donc la seigneurie de Dieu sur leur vie. Quand le serpent, Satan qui avait été personnifié en serpent, lorsqu'il s'est approché, ce qu'il a remis en question, c'était donc le droit acquis de Dieu sur sa créature. Il a fait miroiter à Ève et à Adam, parce que Adam n'est pas une victime dans cette histoire, mais il a délibérément accepté de prendre le fruit. Après ça, il a voulu se réfugier sous le fait que c'est la femme que tu m'as donnée et amener le blâme non seulement sur la femme, mais sur le créateur de la femme, donc sur Dieu. Mais foncièrement, Adam est tout aussi coupable que Ève dans cette histoire. Mais ce qu'on a fait miroiter aux yeux d'Adam et Ève, c'était le fait que Dieu voulait dominer sur eux et qu'il les empêchait de manger du fruit de la connaissance du bien et du mal, parce que Dieu savait que si on en mangeait, selon les dires du diable, on deviendrait comme des dieux, on deviendrait comme Dieu. Et ça a été aguichant aux yeux d'Adam et Ève, qui ont accepté, obtempéré, qui ont décidé de prendre le fruit défendu pour éventuellement, après y avoir mangé, être égal à Dieu. Donc, ce faisant, on remet en question l'autorité de Dieu, on s'en soustrait pour devenir maître de notre propre existence. Donc, dans la nature pécheresse, c'est quelque chose qui a été véhiculé de génération en génération jusqu'à nous et qui va être véhiculé encore jusqu'à ce que le diable et puis tous ceux qui lui sont dévoués soient projetés dans l'étang de feu. D'ici là, notre nature pécheresse est encore en train de nous éloigner de Dieu, donc de remettre en question notamment la seigneurie de Christ. Ceci étant dit, la seigneurie de Christ, comme on l'a dit hier, est merveilleuse, incomparable à toutes celles qu'on a pu voir ici-bas sur terre. Et si on comprenait réellement que ce Seigneur, ce monarque, ce roi au-dessus de tous les rois, par amour pour la faible créature et la créature pécheresse que nous étions, avant même qu'on ne se tourne vers lui, avait déjà décidé de donner sa vie pour nous en mourant à la croix, par grâce, par amour, par passion envers nous. Si on comprend la réelle nature de Christ, si on comprend l'amour incommensurable qui l'habitait et qui l'habite à notre égard, assurément, nous n'aurons pas de trouble à remettre notre vie entre ses mains et à faire de lui notre Seigneur au-delà de strictement notre Sauveur. Ce matin et demain, on va parler de différentes choses qui découlent de la présence de Christ à titre de Seigneur dans notre vie. La première chose que Paul va dire, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Me délivrera de toute œuvre mauvaise. L'assurance de la délivrance découle du statut de Seigneur pour Christ dans notre vie. Je reformule la chose pour que ce soit peut-être plus simple. Lorsque Christ est réellement Seigneur dans ma vie, je n'ai pas de doute sur sa délivrance et sur son action à mon égard dans ma vie. Paul va dire, parce qu'il est Seigneur, je sais qu'il me délivrera de toute œuvre mauvaise. En fait, le doute quant à la grâce de Dieu, le doute quant à la provision de Dieu, le doute quant à la délivrance, au secours de Dieu, très souvent, c'est tout simplement dû à notre réticence à l'avoir comme Seigneur. On doute de sa délivrance parce qu'on se dit, ouais, mais de toute manière, je ne lui laisse pas vraiment toute la place. On sait qu'il veut et qu'il devrait être Seigneur de notre vie. On garde mainmise sur certains secteurs, sur certaines facettes. Et lorsque le problème arrive, on se demande est-ce que je suis en état pour que sa délivrance s'accomplisse dans ma vie. Alors, un moyen de régler ce doute, un moyen de régler cette inquiétude, c'est donc effectivement de remettre à Christ la gouvernance totale de notre vie. Si Jésus est Seigneur de ma vie, Paul dit, sa délivrance va s'accomplir. Et c'est au-delà de l'accomplissement d'une délivrance, ça va plutôt dans la certitude qui habitait le croyant qui était Paul. Cet homme de foi était fortifié par le fait qu'il savait que Christ était Seigneur. Très souvent, notre foi est affaiblie, non pas concernant la capacité de Christ d'intervenir, non pas concernant la capacité de Christ de renverser les situations de notre vie, mais notre foi est affaiblie, sachant que notre état face à Dieu n'est pas celui qu'il devrait être. Alors, je te pose la question ce matin. Est-ce que Jésus est vraiment le Seigneur de ta vie? S'il est le Seigneur de ta vie, si effectivement il a la mainmise sur tous les aspects, toutes les facettes et tous les secteurs de ta vie, tu n'as pas à craindre quant à la délivrance que Dieu veut accorder. Ici, on ne parle pas de la délivrance de Dieu en soi, on parle de l'assurance de cette délivrance. Quand je suis tombé malade, comme vous tous, je n'avais pas une vie parfaite. Parce que le pasteur même est sujet à sa nature pécheresse et à l'occasion, le pasteur ne fait pas ce que Dieu veut qu'il fasse. À l'occasion, j'ai aussi à revoir le statut de Seigneur de Jésus dans ma vie, dans différentes facettes, dans différentes situations de ma journée. Par contre, lorsque je suis tombé malade, il y a eu un abandon de mon existence entre les mains de Dieu, que j'ai renouvelé. Pourquoi? Parce que je savais que dans l'état où j'étais, puisque le jour de mon diagnostic, tout de suite j'apprenais que j'étais en stade 4, donc dans le stade le plus précaire qui existe au niveau du cancer, et que je ne pouvais rien y faire. Les médecins me l'ont confirmé très rapidement et à maintes reprises dans les mois et les années qui ont suivi. La médecine, et mon médecin principal va dire, alors qu'il n'est pas chrétien, va dire que si je suis en vie, c'est un miracle. Donc ce n'est pas dû au traitement, ce n'est pas dû à l'opération, ce n'est pas dû à la chimiothérapie, mais c'est, lui-même l'admet, un miracle qu'il ne peut expliquer et que vous et moi, on sait très, très bien expliquer comme quoi c'est le Seigneur qui est intervenu. Mais le jour où on me donne mon diagnostic, je sais dès ce moment-là que, à moins que Dieu n'intervienne, je pars. Et vous savez, la prière que j'ai faite le lendemain du diagnostic, la toute première prière que j'ai faite le lendemain du diagnostic, où je disais à Dieu, c'est correct que tu veuilles me garder ici ou que tu veuilles m'amener avec toi, je te laisse faire, tu sais ce qui est bon, tu sais ce qui est meilleur, la seule chose que je te demande, c'est de prendre soin de l'Église et de prendre soin de la famille. Donc à ce moment-là, je remettais ma vie entre les mains de Dieu pour qu'il fasse ce qu'il veut, ce qu'il voudrait. Mais ce faisant, effectivement, la paix, l'assurance de la présence de Dieu, l'assurance de l'action de Dieu, l'assurance que Dieu veillait sur moi et que Dieu pouvait intervenir, était beaucoup plus forte qu'auparavant. Pourquoi? Parce que j'avais renouvelé mes vœux de façon authentique, de façon la plus sincère qu'il soit et la plus profonde qu'il soit. Alors effectivement, lorsque la seigneurie de Christ est en place dans ma vie, le doute par rapport à son intervention, le doute par rapport à la délivrance qu'il accorde s'estompe. Et dans mon cas, comme dans le cas de Paul, c'est pas une question de guérison et c'est pas une question pour Paul qu'il sorte de prison. Parce que Paul va dire, il va me délivrer de toute mauvaise œuvre et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Là, il est en train de parler de partir dans l'éternité. Au début du chapitre, il va dire que le moment de son départ approche. Donc, Paul n'est pas en train d'associer sa délivrance à une libération de la prison, mais il associe sa délivrance sur le fait qu'il sait que peu importe ce qu'il se passe dans sa vie, Dieu est au contrôle et ce qu'il fait est parfait. Alors, as-tu cette assurance que Dieu est au contrôle dans ta vie et que ce qu'il fait est parfait? Pour avoir cette assurance, Paul va être très clair comme quoi ça prend que Jésus soit le Seigneur de ton existence. Mais de surcroît à cela, il va dire, il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume. Là encore, question d'assurance. On a vu tout à l'heure assurance par rapport à la délivrance promise. Mais là, il y a assurance par rapport au salut promis. Paul est en train de dire, voilà, j'arrive à terme, au terme de ma vie, je vais passer dans l'éternité. Et Paul dit, j'ai l'assurance de mon salut. Pourquoi? Parce qu'il avait effectivement un sauveur efficace, mais parce que ce sauveur, au tout début de ce verset, est identifié comme étant aussi Seigneur. Voilà, très souvent, le doute qu'on a par rapport à notre salut vient souvent du statut de Seigneur dans notre existence. Si le statut de Seigneur est ferme, solide, bien ancré et respecté dans ma vie, alors j'ai un doute beaucoup plus faible par rapport au salut. Mais lorsque je passe par des moments où je fais un peu à ma tête, par des moments où je ne fais pas ce que Dieu voudrait, par des moments où je redeviens, je reprends les rênes de mon existence, à ce moment-là, je sais pertinemment que Jésus n'est pas dans un statut de Seigneur comme il le désire, comme il le mérite et comme il se doit. Et à ce moment-là, le doute du salut vient. Et une façon, encore une fois, de régler cette question de doute est d'avoir l'assurance de mon salut et donc d'avoir l'assurance aussi que Jésus est le Seigneur de mon existence. Et ça, c'est très simple à faire. C'est de remettre à Dieu les droits sur l'ensemble de ma vie. De surcroît à cela, lorsqu'on parle de faire entrer dans le royaume céleste. Royaume ici, ça va au-delà d'une question d'éternité, de paradis ou de Nouvelle Jérusalem, peu importe comment vous voulez l'appeler. Quand on parle de royaume, c'est le terme grec basileira. Basileira, pour ceux qui prennent des notes, je sais que vous êtes quelques-uns à le faire, ça s'écrit Basileira. 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 Donc royaume. Et quand on parle de royaume, ici, on ne parle pas nécessairement d'un territoire. On ne parle pas nécessairement d'un château. On ne parle pas nécessairement d'un bâtiment. On parle plutôt d'une puissance et d'une autorité, d'un règne et d'un pouvoir qui est attribué à un roi. Donc royaume, ici, on parle plus du règne que du territoire. Et pour nous, c'est important. Ça veut dire que le jour où nous passons dans l'éternité, nous pénétrons de surcroît à cela dans ce royaume où le règne de Christ est parfaitement, totalement, complètement, excellemment ou excellemment, en tout cas de façon excellente, mise en place. Et dans cette phase de l'éternité, où effectivement, en tant qu'enfant de Dieu, je me soumets totalement au règne et à l'autorité de Christ. Jusqu'à ce qu'on passe de l'autre côté du ciel, jusqu'à ce qu'on passe de l'autre côté de cette vie, nous serons encore tiraillés en raison de notre nature pécheresse. Mais Paul entrevoyait ce passage à l'autorité suprême de Christ sur sa vie comme quelque chose de merveilleux. Parce que c'était, oui, lié au salut, c'était lié à son statut éternel de racheté et de gracié, mais c'était lié aussi à cette autorité qui, pour toujours, ne sera plus jamais contestée, même par sa nature. Et Paul va vous dire clairement à un moment donné, voici ce que je veux faire, je ne le fais pas, et ce que je ne veux pas faire, voilà ce que je fais. Donc Paul est en train de dire, je suis tiraillé moi-même, le grand apôtre, celui qui écrit le trois quarts du Nouveau Testament sous l'inspiration du Saint-Esprit, celui qui initie l'ouverture de l'Église vers les païens et vers donc les communautés comme les nôtres. Celui-ci va dire que malgré toute chose, malgré sa connaissance de Christ, malgré sa soumission à Christ, malgré sa dépendance de Christ, malgré tout cette nature pécheresse qu'il a, le tiraille et fait en sorte que régulièrement ce qu'il veut faire, il ne le fait pas. Donc les bonnes choses qu'il voudrait faire, il ne les fait pas. Et ce qu'il ne veut pas faire, voilà ce qu'il aboutit à faire à cause de sa nature pécheresse. Et pourtant, ça ne l'empêche pas de déclarer Jésus comme Seigneur, de prétendre effectivement à la vie éternelle, d'avoir l'assurance de son salut, d'avoir l'assurance de la couronne qui vient authentifier son travail de ce côté-ci de l'éternité, et qui vient par conséquent établir aussi que, à ma mort, je me destine au royaume de Dieu dans lequel je ne serai plus tiraillé et dans lequel il aura pleine et totale mainmise sur mon existence. Paul regardait cela avec avidité. Paul regardait ça avec joie. Paul languissait à ce moment où il ne serait plus tiraillé entre soumission et rébellion, entre soumission et remise en question, entre soumission et offenser Dieu. Il aspirait à ce jour où, de façon toute naturelle, parce que sa nature pécheresse aura été détruite, il serait complètement soumis à Christ. Paul avait cette avidité de passer dans cet état-là où ils ne contesteraient plus la Seigneurie de Christ. Je me demande pour toi et pour moi, avons-nous cette avidité-là? Est-ce notre désir? Paul va regarder le Seigneur et dire, regarde Seigneur, j'aimerais tellement ne pas t'offenser. J'aimerais tellement ne plus dire ce que tu ne veux pas que je dise. J'aimerais tellement ne plus faire ce que tu ne veux pas que je fasse. J'aimerais tellement ne plus être entiché par la tentation, attiré par la tentation. J'aimerais tellement ne plus remettre en question ta seigneurie, ton autorité sur ma vie. Voilà pourquoi j'aspire à la vie éternelle, que je passerai sous ton règne, dans ton royaume, sous ton autorité. Je me demande si on aspire au royaume de Dieu pour les mêmes choses. Ou on aspire simplement au royaume de Dieu pour les rues pavées d'or, pour les couronnes qu'on aura sur notre tête, pour la demeure somptueuse qu'il nous prépare, pour les bénédictions, la grâce, pour la joie, plus de larmes, plus de maladies, plus rien de désagréable là-haut. Est-ce que c'est pour ça qu'on court vers le royaume céleste, vers le royaume de Dieu, qu'on aspire à la vie éternelle? Ou est-ce que ce qui m'attire, c'est que finalement, je reviendrai dans ce statut qui était là avant la faute d'Adam et Ève? Je reviendrai à cet état pour lequel j'avais été créé et dans lequel je ne conteste plus l'autorité, le règne, la seigneurie de mon parfait maître, de mon parfait roi, de mon excellent Seigneur. Voilà quelque chose à penser. Alors on s'arrête là ce matin. Prions. Seigneur, effectivement, cette semaine, tu nous parles sur le fait de faire de toi notre Seigneur et de ne plus être dans ce tiraillement inlassable entre obéir, désobéir, me soumettre, me rebeller, être assujetti ou être révolté par rapport à toi. Seigneur, si on comprenait qui tu es, si on comprenait mieux qui tu es, si on réalisait davantage cette grâce d'être dans ta présence, cette grâce de se retrouver sous ton autorité. C'est même futile de croire qu'il est mieux d'être loin de toi. C'est futile, c'est insensé de penser qu'on est libre sans toi. On est esclave, esclave du péché, esclave d'une vie qui nous mène à la condamnation éternelle. Et voilà pourquoi le grand roi qui était David va dire qu'il est préférable pour lui d'être dans les parvis de ta maison et de se soumettre dans ta maison à ton règne, à ton autorité, que d'être n'importe où ailleurs. Seigneur, très souvent, l'assurance de ta délivrance, l'assurance de ton salut vient du fait que on est insoumis, vient du fait que notre cœur se soustrait à ton autorité. Notre vie serait beaucoup plus paisible, notre âme serait beaucoup plus en repos si effectivement nous assurions que ta seigneurie n'était pas contestée dans notre vie. Alors peut-être, Seigneur, ce matin, ma soeur, mon frère, ont-ils une décision à prendre, des vœux à renouveler. J'ai eu l'expérience, Seigneur, de ces moments difficiles dans ma vie où j'étais en paix totale tout simplement parce que je savais que j'étais là où tu me voulais et que tu étais au-dessus de moi et que tu régnais sur toutes les situations de mon existence. Cette paix ineffable qui ne peut venir que du fait que tu es totalement Seigneur de notre vie est incomparable. Et je prie, Seigneur, que mon frère, ma sœur puisse accéder à cette paix en te remettant leur existence. Assurément, on est toujours pécheur. Assurément, notre nature est pécheresse. Assurément, on est toujours tiraillé. Paul l'était. Mais Paul, parce qu'il avait pris cette décision, parce qu'il traitait durement son corps pour ne pas être esclave du péché, ben, il avait cette assurance que la couronne de justice lui était réservée parce qu'il avait couru la course, combattu le combat et qu'il avait gardé la foi. Je prie qu'il en soit de même pour ma sœur, qu'il en soit de même pour mon frère, qu'il en soit de même pour moi. Et si, Seigneur, tu as une place à reprendre, nous te la remettons, nous te la laissons. Domine sur nous, règne sur notre vie et que ta paix s'empare de nous. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Seigneur, on veut juste rapidement prier aussi, Seigneur, pour ces familles qui sont éprouvées par un deuil sordide et terrible avec ces personnes qui ont été assassinées froidement à travers les dernières journées. On prie aussi, Seigneur, pour la famille de l'assaillant qui aujourd'hui même se retrouve aussi dans le deuil. On prie, Seigneur, que ta consolation s'empare de chacun. Que la peur, Seigneur, qui avait saisi peut-être la population de Montréal et des alentours, s'estompe au nom de Jésus. Et que tu donnes à ton Église, Seigneur, d'être des porte-voix pour le royaume de paix, pour cette paix qui émane de toi et qui dépasse l'entendement. On prie aussi, Seigneur, particulièrement en cette deuxième année qui vient à terme, Seigneur, après l'explosion du port à Beyrouth. On prie, Seigneur, pour nos frères et nos sœurs qui vivent encore dans la précarité suite à tous ces événements et puis dans l'insécurité. On prie particulièrement pour notre bien-aimée Angela, la maman de notre sœur Pascale, que tu puisses, Seigneur, ouvrir les portes. Merci pour les documents qui sont en train de se faire. On prie, Seigneur, que tu puisses la protéger pendant le restant, Seigneur, de son séjour à Beyrouth, mais aussi, Seigneur, que tu ouvres les portes afin de la faire venir parmi nous rapidement pour que ta fille Pascale et puis Jean-Bernard, son fils, Seigneur, soit en paix et qu'il puisse voir maman et grand-maman bientôt parmi nous à Montréal. Alors, merci, Seigneur, de prendre en compte ces deux requêtes. On prie, Seigneur, pour France. Bénis-la aujourd'hui en cette journée d'anniversaire pour elle et pour sa sœur Francine, que ta grâce leur soit accordée. Nous t'avons prié avec cette assurance que tu veilles sur nous, que tu nous aimes, que tu prends soin de nous. Pour ta gloire et ton honneur, Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. On se retrouve demain matin pour notre dernière bénédiction matinale de la semaine. Je vous rappelle que la semaine prochaine, ce sera la dernière semaine de bénédiction matinale pour l'été. On va se retrouver par la suite au mois de septembre, mais encore une semaine avant que je ne cesse pour quelques semaines ce temps de bénédiction. Alors sur ce, bonne journée à tous. On se retrouve demain pour notre prochaine bénédiction matinale. Au revoir tout le monde.